Pietro Bugnon, notre invité ce matin, est la responsable durabilité de la Banque Pictet.
Marie-Laure Schaufelberger, bonjour.
Bonjour.
Présidente également du Sustainable Finance Geneva, l'organisateur du sommet Building Bridges qui débute aujourd'hui à Genève. C'est le rendez-vous annuel de la finance durable pour qui veut investir de manière socialement, environnementalement responsable. Alors ce concept de finance durable, il n'est pas nouveau. Vous prenez une nouvelle approche dans ce domaine. Premièrement, pourquoi ? Parce qu'on s'est trop focalisé sur les enjeux liés au réchauffement.
Alors, ce qui est important à comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a en effet des enjeux de réchauffement, mais comme on l'a entendu dans le sujet juste avant, on a aussi des enjeux de biodiversité, des enjeux autour des sources d'eau, de la qualité des sols et de toutes ces pressions que finalement l'activité humaine exerce sur une planète qui est finie et qui n'est pas infinie. Et on commence à s'en rendre compte et d'avoir justement une vue beaucoup plus holistique, et la finance doit aussi s'en préoccuper.
Quels sont les résultats? Est-ce qu'on peut les mesurer? Qu'est-ce qu'a apporté jusqu'à maintenant la finance durable?
Il faut savoir que c'est aussi un domaine qui est très nouveau. Donc il faut être humble dans l'approche, il faut être aussi très transparent sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Je pense que ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que la finance finalement a trois rôles à jouer dans l'allocation du capital des gens qui ont ça dans leur caisse de pension et dans leur compte en banque. Le premier, c'est investir dans les solutions. Investir, par exemple, dans les entreprises qui produisent des panneaux solaires, qui produisent des systèmes de traitement d'eau, ou encore des nouveaux matériaux pour la construction, comme le béton ou l'acier. Ça, c'est vraiment le premier axe. Deuxième axe, transition. 95% de notre économie doit passer d'un mode intense en carbone, intense en utilisation d'eau, intense en utilisation des sols, à un état où on utilise beaucoup moins de CO2. On a entendu le canton de Fribourg qui passe une loi aujourd'hui. C'est pas le premier, ça sera très certainement pas le dernier canton. Une utilisation moins intensive en eau, etc. Ces compagnies ont besoin d'investissement, ont besoin de capital. Et donc, c'est le deuxième rôle qu'on joue. Et le troisième rôle, c'est ce qu'on appelle l'engagement actionnarial, l'engagement pour le changement. C'est parce que 50% des entreprises aujourd'hui, si on regarde les grosses capitalisations boursières mondiales, n'ont pas encore de plan de transition, que ce soit en matière climatique ou autre. Et il ne faut pas oublier les PME qui font le tissu économique finalement de la Suisse et du monde entier, qui ont beaucoup, beaucoup de challenges, de défis à mettre ça en place.
Vous savez que dans le public, il y a une grande méfiance vis-à-vis de ce genre de discours-là. Oui, on est vert, on finance durablement. Est-ce qu'il y a des résultats concrets? Parce que le greenwashing est pas très loin.
Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment très, très important. C'est pour ça que je disais, il faut beaucoup d'humilité. Mmh. Il faut, lorsqu'on dit qu'on a un produit qui investit dans les solutions, il faut être extrêmement transparent. Aujourd'hui, si on regarde le monde de la finance dans sa totalité, on a à peu près 50% des montants sous gestion dans le monde qui prennent en compte de près ou de loin des facteurs environnementaux et sociétaux. La vaste majorité de cet argent, il faut le rappeler, c'est une question de risque. C'est des investisseurs qui essayent de voir quel est l'impact risque-rendement sur ce que j'investis. Est-ce que l'immeuble que j'ai acheté en Floride va être sous l'eau dans 10-15 ans? Est-ce que je peux assurer une maison en Californie, ou est-ce que je vais plus avoir de neige pour mon chalet à Verbier? c'est plutôt cette vision-là, et beaucoup moins une vision de l'impact du capital. Et c'est là où arrive le greenwashing, parce que si on ne fait pas la distinction entre cette vision risque et la vision j'essaie de changer quelque chose, qui est aujourd'hui que 1% du capital total qui est investi, on a un problème.
On voit qu'en 2022, les investissements dans le pétrole sont repartis à la hausse à cause de la crise énergétique. Est-ce que la tendance vers une finance plus verte, est-ce qu'elle est vraiment là aujourd'hui?
Bien sûr qu'elle est là, et on le voit pas juste dans la finance, on le voit aussi dans la politique qui s'accélère. On a entendu Fribourg, ça c'est proche de la maison, mais en fait on a également la Californie qui s'inquiète, qui commence à attaquer également les grandes compagnies pétrolières pour avoir justement créé un énorme problème avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a une accélération, mais ce qu'on a aussi, c'est des problématiques à court terme qui sont liées à des problèmes de conflits armés. Là on l'a vu avec l'énergie lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine. Ce sont aussi des réalités de notre monde. On entend parler aussi de cette resurgence de l'extrême droite dans plein de pays. Il faut absolument qu'on commence à avoir un discours qui inclut tout le monde sur ces problématiques-là, parce que sinon, ça sera toujours vu comme quelque chose qui est fait par et pour des élites, alors que finalement, rester dans les limites planétaires, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Mais la planète nous survivra, nous et nos sociétés, par contre, on aura beaucoup plus de peine.
Mais lorsqu'on voit que la semaine dernière, Crédit Suisse, UBS continuent à investir dans des énergies fossiles, critiquées pour cela, vous dites quoi ? Vous vous dites ces banques ont raison ou pas ?
Je ne dis pas que ces banques ont raison ou tort. Ces banques sont le reflet de la réalité économique de nos structures humaines. Nous dépendons à 70% des énergies fossiles. Et c'est pour cela qu'on parle de transition. Il faut absolument que ce capital arrête d'aller dans ces endroits, dans les fossiles, dans les énergies fossiles, et commence à être redéployé, ce qu'il est redéployé en l'occurrence, mais il faut qu'il soit redéployé encore plus dans les énergies renouvelables, dans justement des processus respectueux de la nature. Mais on voit cette tendance s'accélérer très fortement, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on dépend encore tous des énergies fossiles. Donc on a tous un rôle à jouer.
Votre credo, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut tenir compte des limites planétaires lorsqu'on investit. Qu'est-ce qu'on entend au juste par limites planétaires ?
Donc justement, c'est ces fameux domaines ou ces fameux axes comme le cycle du carbone, le cycle de l'eau, la biodiversité sur la Terre, la charge de nutriments par exemple dans les sols, le fait qu'on a un appauvrissement des sols, il y en a 9 aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, le Stockholm Resilience Center, qui en fait avait créé ce concept des limites planétaires en 2009, a montré que sur 6 des 9 limites, on va au-delà de ces limites. Ce que ça implique, c'est qu'on va par exemple au-delà du 1,5 degré de réchauffement d'ici 2100. Et tout cela a des conséquences en fait pour nos sociétés humaines. Ce n'est pas des limites finalement pour la planète, c'est plutôt des limites pour nous. Parce que ça veut dire qu'on va commencer à avoir beaucoup plus d'événements climatiques extrêmes. On va avoir des problématiques hydrologiques dans certains endroits où on n'en avait pas. On va avoir trop d'eau, pas assez d'eau dans d'autres endroits. Et tout cela va demander de l'adaptation, de nouveau, du capital déployé pour pouvoir faire face à ces changements qu'il faudra aussi réduire. Il faudra qu'on évite d'avoir autant de changements que ce qu'on a avec la trajectoire actuelle.
Mais combien de produits financiers aujourd'hui respectent ces limites planétaires ?
Mais comme je disais, aujourd'hui, les produits financiers qui se concernent réellement de rester dans les limites, de rester d'avoir un impact positif, c'est à peu près 1 à 2% du marché.
C'est rien.
Donc en fait, c'est très très peu. Il faut maintenant qu'on ait en place beaucoup plus de mesures, beaucoup plus de façon tangible de rediriger et de comprendre ce capital. Et surtout, il faut travailler en partenariat public-privé parce qu'un des gros challenges que l'on a, c'est qu'en fait, le prix aujourd'hui ne reflète pas la réalité de ce qu'on fait à la planète. On ne prend pas en compte les externalités négatives.
Cette vision encore plus verte de la finance verte, si je puis dire, est-ce qu'elle est compatible avec la croissance ?
C'est une question intéressante. En fait, ce qu'on commence à entendre, c'est que finalement, la croissance, elle doit être dans le respect de ses limites planétaires. Ouais. Et du coup, de l'innovation de demain doit être dans le respect de ses limites planétaires, sinon c'est pas de l'innovation, c'est juste les affaires telles qu'elles sont aujourd'hui. Et en fait, pour que ça se fasse vraiment à une échelle dont on a besoin, il faut absolument que ces fameuses externalités soient prises en compte au niveau du coût dans l'économie réelle. La finance ne va faire que d'accélérer dans l'économie réelle. Mais c'est l'économie réelle, les entreprises dans lesquelles dont on dépend qui vont transitionner. Et ça, c'est vraiment absolument clé. Les externalités négatives, comme par exemple une usine qui crée de la pollution dans une communauté locale qui ne paye pas le prix réel de cela, et du coup, le consommateur final ne le paye pas, mais il le paye en santé, il le paye en qualité des eaux dégradées, etc. L'externalité positive de l'éducation, par exemple, ça, c'est un autre domaine où on ne valorise pas à son juste prix, ce que l'éducation de la population peut faire pour un pays. Il faut absolument commencer à valoriser ces choses-là. La finance peut faire une partie du travail, mais on ne peut pas le faire sans le politique ni les citoyens.
Prenons un exemple concret. Je ne sais pas moi, j'investis dans une petite PME qui fabrique des panneaux solaires. Bon, très bien, elle le fait en Suisse, elle respecte les limites planétaires, etc. Mais cette petite PME croît, elle engage des nouveaux employés, elle se développe à travers le monde et à force de croître, elle dépasse justement ses limites planétaires. Donc au fond, un investissement qui était durable aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On dit à l'entreprise en tant qu'investisseur, arrêtez de vous développer ?
Et à ce moment-là, aujourd'hui, on n'est pas encore dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'excès partout. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a de la technologie qui est tout à fait adaptée à gérer un certain nombre de ces problèmes. Regardez, on a déployé seulement 7% de la capacité solaire qu'on pourrait déployer sur le canton de Genève. Donc là, on est aujourd'hui plutôt dans un cas où on doit passer sur une énergie propre et on le fait pas assez rapidement. Donc, en fait, ça, c'est vraiment ce qui est clé. Maintenant, ce que vous dites, c'est vrai. Qu'à un moment donné, il va falloir aussi se poser des questions, notamment dans les pays qui sont déjà très industrialisés, de la sobriété, mais aussi
de la décroissance
mais surtout de la transition vers un mode qui est axé sur le bien-être. Le bien-être de l'humain. Il faut pas confondre coût et bien-être. Il faut aussi s'assurer que si l'humain est heureux et bien, est-ce que on a besoin d'avoir 12 voitures? Non. Je pense que les études sont très claires sur le fait que il y a pas de corrélation entre énormément de matériel et le bien-être. Et je pense que ça va devenir de plus en plus une question de ça. Mais il faut pas oublier que dans les pays émergents, on n'est pas du tout dans le même cas de figure et que dans certaines parties de nos sociétés, on a encore des gens qui ont de la peine à boucler les fins de mois. Et donc, il faut avoir un discours intéressant, intelligent autour de ces questions-là.
Et qu'en est-il?
C'est pas noir ou blanc.
Qu'en est-il du rendement? Parce qu'au fond, c'est quand même ça ce qu'on recherche lorsqu'on investit, c'est d'avoir une certaine forme de rendement. Avec justement cette vision de limite, est-ce que ça veut dire que du coup, le rendement est plafonné?
C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, si je regarde Pictet, qui est l'exemple que je connais, nous investissons aujourd'hui plus de 60 milliards de francs suisses dans des thématiques qui sont dans l'environnemental ou le social ou la technologie. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire dans les années 2000 déjà avec un concept autour de l'eau et d'acheminer les solutions liées à l'eau. Et c'est quelque chose qui a offert un rendement parce que aujourd'hui il y a un marché en développement pour ces solutions. Il y a un besoin de les déployer à un taux beaucoup plus élevé. Et puis il faut pas oublier que dans des transitions, toute transition, il y a des gagnants et des perdants. Et en tant qu'investisseur, il faut absolument qu'on puisse identifier quelles sont les sociétés qui ont un plan et qui vont à l'avenir pouvoir croître de façon différente et s'insérer dans une nouvelle structure qu'on aura pour ma fille, ma fille a 3 ans, en 2100, j'espère bien que la société sera différente et aura évolué, elle aura évolué, et j'espère bien, dans le bon sens, il y en aura certaines qui vont survivre, des sociétés, puis d'autres qui vont disparaître. Et on se doit de comprendre ces transitions-là dans le monde financier.
Marie-Laure Schaufelberger, responsable durabilité de la banque d'investissement Pictet, une banquière de gauche, on peut dire ça?
Je pense pas une banquière de gauche. Je pense qu'il faut, c'est important que ces questions de limites planétaires ne soient pas cantonnées à un parti politique. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de tout ça à Building Bridges cette semaine. Parce qu'il faut absolument qu'on ait une volonté politique, une volonté citoyenne et le capital et la technologie pour pouvoir amorcer cette transition et la faire de façon aussi juste que possible.
Building Bridges, un sommet qui débute aujourd'hui et qui se tient toute cette semaine à Genève. Merci Marie-Laure Schaufelberger.